chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Aujourd'hui, dans votre émission Les Marches de la Foi, Armel Lucas. Et nous allons parler des toutes prochaines élections européennes, c'est l'actualité. Et pour en parler, je reçois Pascal Dupré du service formation. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Alors, chers auditeurs, donc vous allez voter le dimanche 26 mai et je précise qu'il n'y a qu'un tour aux élections européennes, donc déplacez-vous le 26 mai. C'est un vote pour le Parlement européen, Parlement qui se renouvelle tous les 5 ans. Cette année, 33 listes se présentent, donc un grand choix à faire. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui, pour vous aider. Et Pascal, quels sont en fait les enjeux d'une telle élection? Comment faire un choix?
Alors d'abord, je voudrais dire que l'Europe vit au rythme de nouvelles très menaçantes pour son unité et sa paix intérieure. Il y a le Brexit, la montée des prises de pouvoir de partis nationalistes, des crises sociales, la montée des radicalismes religieux et anti-religieux. Les laissés pour compte de la croissance sont là et il y a un risque d'unir les mécontents et de dénoncer le coupable, l'Europe, supposée être le responsable de tous les maux. Alors bon, devant ça, déjà, peut-être avant, il faudrait dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Le 26 mai, on va faire quoi? C'est 380 millions d'électeurs qui vont désigner 751 députés européens, c'est nombreux, provenant de 28 pays. Mais je voudrais souligner que c'est la seule occasion qu'a le citoyen européen d'avoir une influence sur la politique de l'Union. D'où l'importance d'aller voter, puisque c'est le seul moment où on peut, en tant que citoyen, faire qu'on influence cette politique. Alors, l'Europe, c'est compliqué. Je voudrais peut-être préciser quelques points, parce qu'on se dit
c'est
quoi
vaste.
On vote pour le Parlement. C'est quoi ce Parlement? Alors déjà, oui. L'Europe s'est fait d'un regroupement de chefs d'État ou de chefs de gouvernement, et ça, c'est le Conseil européen. Et il nomme son président pour 2 ans, renouvelable une fois. Actuellement, c'est le Polonais Donald Tusk, et c'est lui qui représente l'Union européenne dans le monde. Et ça, c'est le Conseil européen. Le Parlement européen siège à Strasbourg. Il partage avec le Conseil de l'Union européenne, qui est l'organe exécutif et législatif, le pouvoir législatif de l'Union. Et il partage. C'est-à-dire que le Conseil doit demander, dans certains cas, l'accord
du Parlement.
Mmh. Donc ce Parlement européen, il approuve le président de la Commission. La Commission a énormément d'importance, puisque c'est l'exécutif. Hein. Il approuve le président de la Commission, qui est choisi par le Conseil européen, ainsi que la composition de la Commission. La Commission, d'ailleurs, c'est 28 commissaires, un de chaque pays. Hein. Il peut forcer à démissionner la Commission par une motion de censure. Donc il a un poids, comme on pourrait dire... C'est le principe démocratique
qui est des chambres,
comme c'est bicaméral, on va dire, comme en France. Hein. Mais c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a 28 pays, quoi. Alors, actuellement, le président de la Commission, c'est Jean-Claude Juncker.
Oui.
Son mandat est de 5 ans, il a été obtenu en 2014, et il est renouvelable une fois. C'est lui qui nomme ou renvoie les 28 commissaires, et il fixe le calendrier politique de la Commission. Donc, si le Parlement n'a pas l'initiative législative, parce que c'est la Commission qui a cette initiative, ce Parlement, il amende ou il approuve les règlements, ce qui est directement applicable partout, dans tous les États. Les directives, alors c'est ce qui lie des États membres sur des objectifs à atteindre, mais on laisse aux États le temps de mettre en place et on garde des compétences dans les États et on garde les... Comment on va mettre en place les moyens? C'est ce qu'on appelle la transposition dans le droit national des directives européennes.
Oui.
Donc on entend ça de temps en temps, mais c'est compliqué de voir que le règlement s'est décidé directement et que les directives, c'est des choses que c'est les États qui doivent reprendre pour le mettre dans
les adapter
à leur législation. Hein. Et puis des décisions qui sont applicables à tout le monde. Donc, et le Parlement, il contrôle le volet dépenses du budget. Il définit pas le budget, mais il contrôle le volet. Mmh. Voilà. Donc, c'est rapide. Peut-être que pour mieux connaître ces institutions, on pourrait aller chercher des informations. Le journal La Croix, en partenariat avec le site Toute l'Europe, a réalisé des podcasts qui sont très bien faits. On va les trouver sur le site de Radio Grand Ciel à la page Marche de la Foi.
Voilà, on va faire mettre le lien.
Voilà.
C'est bien parce que là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais je pense qu'avec avec ces sites, les auditeurs, ils verront plus clair, ils pourront prolonger. C'est une institution complexe, l'Europe. Hein. Ça doit faire, du coup, derrière ces parlements, ces conseils, ces commissions, beaucoup de monde. Et ça doit représenter un coût. Qu'en est-il, Pascal ?
Oui, ça représente du coût, mais il y a 33 000 personnes, dont 22 000 fonctionnaires qui travaillent à la Commission européenne, pour assurer la gestion quotidienne de toutes les politiques et activités. Alors les politiques, on pourrait rappeler quelques-unes, la politique agricole commune, qui est le départ de cette union, on va dire, hein. La sécurité alimentaire, la protection des consommateurs et de l'environnement, le soutien à l'investissement, le développement économique et régional, la transition énergétique, la recherche et l'innovation, la mobilité, les problématiques de transport, le commerce international. Enfin, vous voyez, c'est énorme le nombre de politiques qui sont impulsées ou orientées par l'Europe. Alors, tout ça, c'est au service de 500 millions d'habitants. C'est la seconde puissance économique mondiale. Je pense que c'est important de se rappeler que la France, c'est une petite partie et que l'Europe, c'est aujourd'hui notre espace vital. Alors, ça fait du monde. Et si on ajoute les fonctionnaires du Parlement, pour répondre à ta question sur le coût, je n'ai pas exactement noté, mais ce n'est pas grave. Si on ajoute les fonctionnaires du Parlement au le Conseil de l'Union et diverses agences, on tourne autour de 56 000 personnes qui travaillent pour l'Europe. C'est beaucoup. Oui. Mais il faut relativiser. Par exemple, si on prend les agents de la ville de Paris, c'est 51 000. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait la même chose parce que la ville de Paris, il y a des ouvriers d'entretien de la voirie, etc. Mais à l'Europe, il y a aussi des choses qu'on n'a pas à Paris. Par exemple, 5300 traducteurs et interprètes parce que les textes sont publié dans 24 langues. Donc, dès qu'on intervient, il faut pouvoir publier les textes dans ces langues. Et les réunions sont toujours interprétées. À chaque réunion du Parlement, il y a tous les interprètes qui traduisent dans les 24 langues. Donc, ça peut donner un ordre de grandeur, mais c'est pas comparable. Il faut pas. Par contre, si on disait Bercy, par exemple, il y a 150 000 personnes. Ouais. Donc, voilà. C'est faut relativiser, beaucoup, mais il faut relativiser. Voilà. Et puis, je voudrais dire simplement, j'ai un ordre de grandeur, c'est le coût des agents européens. C'est moins de 85 centimes d'euros par jour et par habitant.
Pour les 500 millions de personnes qui habitent l'Europe. Alors, tout ça, c'est très bien. Hein, mais moi, je suis auditeur, je vous écoute, hein, Pascal. Qu'est-ce qui va me pousser à aller voter ? Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu dans cette élection ?
Alors, les enjeux sont multiples, c'est clair. On trouve dans les programmes toute une palette de nuances avec plus ou moins d'Europe. Dans les listes en tête des sondages, ce qu'on peut voir aujourd'hui, il y en a 6 ou 7, hein, sur les intentions de vote, les solutions extrêmes du style Frexit sont exclues dans les premières listes. Mais on trouve des propositions très différentes. Je vais prendre quelques exemples. On pourrait rompre avec le principe d'un commissaire européen par pays. Hein, la Commission européenne, c'est 28 pays, 28 commissaires. On pourrait rompre avec ça, ce qui permettrait de peut-être avoir quelque chose de plus commun et de moins mettre toutes les approches nationalistes, on va dire, en avant, au lieu de voir le bien commun collectif. Étendre les domaines qui relèvent de la codécision entre le Parlement et le Conseil et la majorité qualifiée au lieu de l'unanimité. Par exemple, la fiscalité, il faut que tous les pays soient d'accord. Alors, on va prendre un exemple. Il y a des pays qui font de l'optimisation fiscale. L'Irlande a été le cas typique. Ils ont baissé leur taux d'impôt. Et si on disait il faut mettre un taux d'impôt pour toute l'Europe, bien sûr, ils ne votent pas. Mais comme c'est à l'unanimité, ils ne votent pas. Et donc, on ne peut pas être d'accord. Donc, on ne peut fonctionner qu'avec des compromis. Il y a des gens qui disent il faudrait pouvoir mettre sur certains sujets la majorité qualifiée. Alors, il y a des sujets où c'est déjà comme ça. Mais il y en a où on a réservé l'unanimité. Et donc, il y a peut-être là, le Parlement pourrait avoir une influence pour faire changer ce genre de règles, puisque c'est à ce niveau qu'il faut agir pour pouvoir finalement résoudre les problèmes de fiscalité. On trouve aussi des candidats qui entendent renégocier les traités pour en limiter le caractère supranational. Sans aller jusque-là, certains réclament que la politique commerciale devienne une compétence mixte qui nécessite une ratification par les nations. Ça peut Certains veulent revenir aux racines de l'Europe, à les inscrire dans la Constitution, l'héritage judéo-chrétien, gréco-romain et des Lumières dans les traités. Voilà. Donc on voyait qu'il y a une grande diversité parmi les listes et que ben, il faut quand même s'informer pour pouvoir faire un choix par rapport aux gens qu'on enverra au Parlement.
Alors Pascal, vous avez beaucoup travaillé la question et je suppose que mon chrétien et catholique, vous êtes allé voir du côté du pape François.
Ah oui.
En quelques mots, pour résumer, qu'est-ce qu'il nous dit le pape pour l'Europe ?
Alors, il voit qu'on n'a jamais été aussi interdépendant et en même temps qu'on n'a jamais été aussi méfiant par rapport à l'Europe. Et c'est le premier pape non européen qui nous vient du bout du monde et il nous parle avec un langage différent et peut-être moins eurocentré. Il appelle à ne pas perdre conscience des bénéfices qui ont été apportés par la construction européenne, la paix notamment, hein, et il s'inquiète des tensions nationalistes qui progressent partout dans le monde sous la pression de pouvoirs populistes. Hein. Je le cite, « Il y a des courants agressifs envers les étrangers, en particulier les immigrés, de même que ce nationalisme croissant qui oublie le bien commun. » Voilà, c'est les deux axes principaux, mais il faudrait reprendre son discours qui a été prononcé à Aix-la-Chapelle, où il parle de « je rêve d'une Europe » et il décline très précisément une sorte de porte-robot que ce que nos représentants devraient chercher à mettre en place. Et ce serait intéressant de relire, on peut le trouver sur Internet, le texte qu'il a donné à Aix-la-Chapelle en mars 2016, quand il a reçu le prix Charlemagne. Et il est de notre responsabilité de choisir par notre vote ceux qui voudront et qui pourront agir le plus dans ce sens d'une Europe plus humaine.
Hein ? Très bien. Un petit mot de la fin, Pascal, peut-être,
alors,
maintenant ?
Ben, pour moi, il nous faut beaucoup d'ambition et en même temps savoir avancer à petits pas. Alors, nous sommes tous frères et nous, Européens, nous devons nous souvenir que des conflits ont conduit au bord du suicide notre civilisation. Et dans l'isoloir, j'emmènerai avec moi deux figures. Celle du soldat inconnu, mort il y a 100 ans, et mon dernier petit-fils qui est né cette année et qui vivra après moi sur ce continent.
Merci, merci Pascal. Voilà, pour tous ces éclairages, alors vous nous avez donné envie d'aller voter, hein, j'espère, aux auditeurs, puis aussi peut-être d'en parler, de reprendre un petit peu ce que vous nous avez dit, de regarder. Alors 33 listes, 33 programmes, ça fait beaucoup, mais au moins d'aller jeter un œil un petit peu. Je pense que sur les sites internet, on trouve les programmes des candidats des différents partis. Alors, rediscuter de ce sujet, chers auditeurs, vous pouvez réécouter ou télécharger cette émission sur le site de Radio Grand Ciel à la rubrique Les Marches de la Foi. Au revoir, à très bientôt. Au revoir, Pascal.
Au revoir.
Merci à Simon à la technique et puis à très, très bientôt sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes, y compris de l'Europe.
Bye, bye, Sombe soli binan murata binyon Gembe itini munu ikere kumba murata binyon Sulu iyeni maler aningi litong lindap murata binyon Bye be ibeni tison bicheo Tabignon, Kimbae, pour un tabignon, Bingé, pour un tabignon, Baibé, Yeni, Sombe, Soli, Binan, pour un tabignon, Kembe, Tini, Unui, Kere, Kumba, pour un tabignon. Bombo ayengi so la bongi likas murata binyo tisoni yoni asoba kori Tabimbae, John Inge, Matabignon, Inge, Matabignon.